existe d'autres parcs de reconstitution archéologique en France, en Belgique et dans d'autres pays européens. Mais dans un rayon de 500 km autour de Douai, il n'y en a aucun sur cette période.
Alors les Vikings vont charger. Ah non. Voilà, vous pouvez voir un petit peu l'impact qui est toujours relativement agressif.
Donc là, vous voyez, je le mets dans la cloutière, je le sépare, et là, je...
Les Vikings ont débarqué dans le Douaisis lors d'un week-end du mois de juin. C'est à l'occasion de l'inauguration du parc archéologique associé au musée Archéos que Francs et Vikings se sont affrontés. Durant deux jours, bateliers, forgerons et tisserands se sont notamment réunis pour partager leurs connaissances de cette époque au grand public. Ce sont en ces lieux que nous avons rencontré Étienne Louis, conservateur du musée, qui nous parle de ce week-end riche en découvertes animées par des passionnés.
Ce sont des associations qui viennent de régions variées. Certaines ont fait des centaines de kilomètres pour venir ici, qui ont été regroupées pour former un thème unique. Donc on a des artisans qui font des démonstrations de choses aussi variées que du tissage, que des perles en verre, que de la menuiserie, que de la forge, par exemple. Puis aussi, là on en voit ici qui vont pas tarder à débouler, qui sont là pour faire des démonstrations en armes et en costumes, notamment de combat, parce que c'est quelque chose de très spectaculaire, pour réunir la soixantaine de personnes qui sont là pour ces animations. Il a fallu brasser large, il y a eu tout un travail de recrutement, si je puis dire, pour ces deux jours.
Et puis c'est se rendre compte comment on vivait à l'époque, même des fois aller au-delà d'a priori, on avait d'a priori sur certaines choses qui étaient faites à l'époque, mais là c'est aussi montrer comment ça se réalisait à l'époque.
Alors le but est que les gens qui viennent ici passent un moment agréable et ludique, bien entendu, mais nous avons veillé, comme pour les bâtiments, à ce que derrière ces animations qui sont là pour le plaisir des spectateurs, il y ait une réalité, une vraisemblance, une réalité historique. Et donc nous avons été très pointilleux sur le choix des personnes, des troupes, des associations qui sont venues. Certains sont très bons, excellents, c'est ceux-là qu'on a choisi. Voilà.
Qu'est-ce que c'est exactement comme parc? Qu'est-ce que ça représente justement comme période aussi, ce parc archéologique?
Alors, à l'origine du projet, qui remonte maintenant à plusieurs années, il a toujours été question dès l'origine d'avoir deux pôles, le musée et le parc. Le musée est là pour présenter et pour mettre en valeur les vestiges, les morceaux, les fragments d'histoire ancienne. Le parc est là en parallèle pour faire l'histoire vivante de ce que l'on peut voir, un peu mort sans doute, dans les vitrines du musée. Donc les deux sont en vis-à-vis. Alors il a fallu choisir aussi pour le parc un thème, et donc nous avons choisi de représenter des choses du début du Moyen-Âge, 9e, 10e, 11e siècle. C'est quelque chose qui est mal connu, donc intéressant à présenter, et qui est très important pour la région du Nord. C'est vraiment une période qui est très méconnue, mais qui est à l'origine du paysage actuel du Nord et du Pas-de-Calais. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, par exemple, la plupart des grandes villes actuelles sont nées à cette époque. Également, on a choisi cette période autour de l'an 1000, 8e, 9e, 10e siècle, parce qu'il existe d'autres parcs de reconstitution archéologique en France, en Belgique et dans d'autres pays européens. Mais dans un rayon de 500 km autour de Douai, il n'y en a aucun sur cette période. Donc nous n'avons pas voulu refaire ce que l'on pouvait voir très bien à quelques kilomètres ou même à quelques dizaines de kilomètres, mais faire vraiment quelque chose d'exceptionnel, de nouveau, quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas pas facilement, voir ailleurs sans faire de longs trajets.
Alors comment ça s'est construit ce parc ? Il y a eu besoin de professionnels, d'entreprises spécialisées pour reconstituer, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de hasard, il faut aussi reconstituer le plus fidèle possible. Comment ça se passe hein ?
Alors il y a au départ quelque chose qui ne se voit pas aujourd'hui, ni d'ailleurs dans les mois ou les années qui prennent, qui est un très gros travail scientifique, un travail de documentation. Il faut arriver à proposer pour des architectes, pour des entreprises, des plans, des croquis, des élévations, des projets qui soient conformes à la réalité historique. Donc ça, c'est un très long travail qui a pris plusieurs années et qui est toujours en cours pour les prochaines étapes de construction. Ensuite, eh bien, à partir du moment où on passe d'un projet, d'une idée, d'un croquis à quelque chose qui est matériel, physique, eh bien, là, il faut passer la main à des professionnels qui sont des ingénieurs, des architectes, des entreprises de travaux publics, tout en restant derrière pour vérifier que l'idée de base est toujours respectée. Mais à un moment donné, oui, c'est un travail plus technique et qui n'est plus celui des historiens et des archéologues. C'est quand même eux qui sont à l'origine du bébé, quelque part.
Ces deux jours n'en seraient rien sans la participation de nombreuses associations qui ont fait vibrer ce que l'on peut désormais appeler le Portus. Des activités étaient donc proposées, telles que la manipulation de torchis.
Voilà, c'est bien.
Je suis pas sur ton pull. Hop. Tu peux me laver mes mains.
Bah, si tu te laves les mains, on pourra plus le faire. Hein.
Tu le feras, après, regarde, tu vas remettre tes mains dans la terre.
Par contre, fais attention à tes habits par le bout là.
Et pour les enfants, étaient même organisés des entraînements de combat.
Donc après, on va vous préparer. On va vous donner une arme, un bouclier. Que les parents se rassurent. Les armes ne sont pas affûtées, on est bien d'accord. Vous allez donc participer à un entraînement. Tel que les guerriers que vous avez pu observer tout à l'heure, vous pouvez le faire à l'époque. Donc il va falloir être discipliné. Vous savez ce que c'est la discipline ?
Oui.
En gros, quand on vous dit obéir, c'est ça la discipline. Vous obéissez et vous ne posez pas de questions. Ça, c'est le rôle d'un soldat de base. Obéir et pas poser de questions.
Parmi eux, Josquin Fluchet, membre de l'association Le Clan du Vestfold, une association qui a pour but de faire découvrir l'univers viking au grand public, également propriétaire de deux bateaux de l'époque.
Alors, il y a deux bateaux qui ont été amenés par notre association. Il y a également un chariot funéraire, qui est une réplique du chariot d'Osberg, qui est un chariot qui a demandé 1000 heures de sculpture. Donc il y a énormément de belles pièces, de décorations scandinaves. On essaie vraiment de montrer que les Vikings, c'est un peuple très civilisé, qui produisent beaucoup d'objets très spectaculaires, et pas seulement des barbares.
Oui, parce que souvent on a des a priori justement sur les Vikings. Qu'est-ce qu'il y a justement comme a priori ou des choses qui sont véhiculées, peut-être qui ne sont pas vraies ?
Alors les deux principaux, c'est déjà le casque à cornes. Les Vikings n'avaient pas du tout de casque à cornes. Et le deuxième cliché, c'est Drakkar. C'est-à-dire que les Vikings n'appelaient pas leurs bateaux des Drakkar.
Et puis d'ailleurs, dans la région, il me semble, du côté du littoral, les Vikings avaient débarqué à l'époque. Et puis il y avait même certains qui s'étaient installés. Justement, vous disiez que ce n'était pas forcément des barbares. Il y avait justement des cohabitations avec les peuples.
Bah, en fait, il faut savoir que les Vikings, ce ne sont pas simplement des pillards sanguinaires. En fait, ce sont des gens qui fuient la Scandinavie par manque de nourriture, parce que c'est un pays où les conditions sont assez dures. Et en fait, ils essayent vraiment de s'installer dans la région et de se mêler à la population.
Alors vous faites des combats aussi, c'est ça? Des démonstrations?
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous faites exactement?
Bah, en fait, le combat viking, comme les spectacles qu'on vous présente, c'est pas quelque chose de chorégraphié. On s'entraîne vraiment une fois par semaine, on s'entraîne au combat. C'est vraiment devenu un sport très codifié avec énormément de règles pour présenter justement un spectacle assez impressionnant sans trop de risques.
Vous passez beaucoup d'heures auprès de l'association justement pour pouvoir vous entraîner, avoir quelque chose de réaliste.
Alors c'est beaucoup de travail personnel déjà, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, on fait un maximum de nos costumes nous-mêmes, on essaye vraiment de redécouvrir un peu les techniques du passé. Il y a énormément de logistique pour l'entretien du matériel, le stocker, l'entretenir après les camps et les entraînements. Oui, donc c'est beaucoup de temps. Ouais.
Alors là aujourd'hui on est au musée Archéos à Douai, l'ouverture du parc. Vous faites souvent des événements comme ça justement?
On fait vraiment des événements de toutes sortes. Ça peut être des événements comme ici, mais on peut aussi intervenir auprès des scolaires. On peut aussi faire des festivals sans public. Ça nous arrive aussi régulièrement de faire vraiment des camps en immersion totale. Donc voilà, c'est vraiment, on a une activité assez variée.
Puis on voit les vêtements, vous avez des armures, etc. C'est vous qui fabriquez?
On essaye de faire un maximum. Après, il y a énormément de commerçants qui fabriquent eux et qui ont beaucoup de compétences. Et du coup, on achète comme on peut.
Et vous faites des recherches pour justement avoir une fidélité, je dirais, par rapport à ce que c'était à l'époque?
Oui, tout à fait. En fait, tous les ans, notre association, on organise un petit voyage juste pour les membres. On essaie de partir en Scandinavie, on voit les musées. On a des bases de données sur Internet qu'on se partage avec beaucoup de sources, beaucoup d'informations. Moi, je suis étudiant en histoire, donc je suis toujours là pour donner des conseils aux nouveaux, pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi. Voilà.
Et c'est être passionné aussi, du coup, pour passer beaucoup de temps, faut être passionné.
Ah, tout à fait, de toute façon, voilà, ça nous perd nos week-ends. C'est pas la première fois qu'on rentre à peine, on range le matériel, on prend une douche et on repart travailler le lundi. Donc, non, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut vraiment avoir la passion et l'envie.
Aujourd'hui, vous venez de dire, vous avez fait des combats, vous faites des démonstrations. Qu'est-ce que vous faites d'autre avec le public?
Alors, il y a énormément d'ateliers. En fait, comme je disais, on vous fait découvrir un peu la culture viking. Donc, partout sur le camp, vous découvrez comment les vikings faisaient des perles, comment ils tissaient, comment ils forgeaient, comment ils faisaient de la poterie. Voilà, c'est tous ces aspects de la société qu'on présente.
Une autre association du nom de Leita Adbardagi avait elle aussi apporté son embarcation. Baptiste Mouko, membre de cette association, nous en dit un peu plus sur ce bateau.
Alors, c'est un entre guillemets, petit bateau de transport. On va essentiellement mettre des marchandises, des moutons, des céréales. C'est vraiment le passe-partout. Il ne va pas être taillé pour la haute mer ou c'est pas non plus un navire de guerre.
Et c'est pas évident à transporter, ça pèse lourd un bateau comme celui-là?
Alors non, pas du tout. Ça va être un petit peu encombrant quand même, mais ça fait à peine 300 kilos.
Oui, quand même, et ça fait combien de mètres de longueur?
Un peu plus de 7 mètres. Oui. Voilà.
Et là, c'est assez différent de ce qu'on peut retrouver ici, ce genre de bateau justement, que ce qu'on retrouvait en France. C'est assez différent?
Alors, bon, je ne connais pas très bien les bateaux en France à cette époque, mais là, on a la particularité que ça va être un bateau à clin.
Qui... Ça veut dire quoi, à clin?
Alors, à clin, ça veut dire que les planches, entre guillemets, qui constituent le bateau vont être superposées les unes sur les autres. Et ce bateau va être monté depuis le fond. Depuis la quille, petit à petit, jusque tout en haut. Voilà.
Avec la voile, c'est ça qui est à côté, on voit aussi...
Voilà, c'est la voile à côté.
Qui est fait comment aussi, ça?
Alors, la voile, c'est une voile qui a été tissée à la main, parce que là, tout a été fait dans la démarche archéologique. On a la voile qui est tissée main, ça représente à peu près 6 mois de travail pour une personne seule. Le bois, bien sûr, va être du bois fondu, c'est pas scié, va être débité en quartier, puis encore plus petit, et enfin fini à la hache. Les rivets, ça va être depuis le minerai de fer, au bas fourneau, à la loupe de métal, et après, passer à la forge pour faire tous ces rivets.
Et donc, vous pouvez aller sur l'eau avec, et aujourd'hui, il est opérationnel, disons, pour aller sur l'eau?
Tout à fait. Bon, là, c'est un concours de circonstances qui fait qu'il est présenté ici et que c'est peut-être mieux aussi de pouvoir le voir de près, le toucher, l'observer, quand il y en a aussi deux autres qui sont déjà à l'eau.
Et du coup, il faut faire de l'entretien. Vous avez aussi auprès de l'association des personnes qui peuvent entretenir ce bateau et justement le naviguer.
Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'il est toujours protégé, toujours sous un abri quand il navigue pas, et puis il navigue assez régulièrement. Et pour ce qui est de l'entretien, c'est essentiellement du goudron de Norvège et de l'huile de lin qu'on passe dessus. Dès qu'il est sec, il va boire ce mélange et ça va le protéger.
Et vous fabriquez aussi des bateaux avec l'association ?
Non.
Non, c'est vraiment...
un jour peut-être, ouais. Pour faire la course avec le deuxième.
Et donc le but, c'est d'avoir plusieurs bateaux. Enfin, vous avez que celui-là ou vous avez d'autres bateaux justement?
Non, non, on n'a que celui-là. Petit à petit, il y a pas mal d'associations qui ont des bateaux. Alors ça permet de proposer des choses vraiment intéressantes au public, que ce soit ici ou ailleurs.
Et comment l'association a pu se procurer ce bateau justement? Vous disiez que c'était d'un musée. Quelle opportunité vous avez pu avoir pour avoir ce bateau justement?
Ben, ça fait depuis que notre président d'association a commencé la reconstitution viking qu'il a en tête. C'est un projet bateau, soit de le réaliser, soit de l'acheter, soit... Mais voilà. L'occasion s'est présentée au musée des bateaux au Danemark, où ils font constamment des reproductions de ce type, qui testent, etc. Et il s'est trouvé qu'ils en avaient un qu'ils pouvaient vendre.
Reportage.
Chose à découvrir sur le mode de vie des Vikings, il y avait également le textile, la manière dont à l'époque ils utilisaient les matières premières naturelles, loin de notre industrie actuelle, comme nous raconte Marianna Desno, membre de la compagnie de la branche rouge.
Donc on présente en fait tout le travail du textile, de la fibre brute, qu'elle soit animale ou végétale. Donc en animal, principalement, ce qu'on a retrouvé dans les tombes ou dans les fouilles, ça va être de la laine. Et en végétal, ça va être du lin. Mais on a aussi du chanvre, on a aussi de l'ortie.
Ah oui, l'ortie, c'est étonnant, puisqu'on peut en trouver justement partout ici, et on pouvait donc le tisser.
Oui, c'est considéré aujourd'hui comme une mauvaise herbe, mais c'était utilisé à la fois dans l'alimentaire et dans le textile et dans la médecine. Donc dans le textile, en fait, ça se prépare comme du lin. On fait rouir, c'est-à-dire on fait macérer et pourrir les parties non ligneuses de la plante. Donc c'est la tige qu'on récolte. Et ensuite, on vient récupérer les parties ligneuses et en faire des fibres. Et ensuite, on les file et on obtient des pelotes comme avec toutes les autres fibres.
Alors, vous parlez d'une partie justement plus de recherche, c'est ça, auprès de l'association, pour retrouver les traces de ce qui était fait à l'époque?
Exactement. En fait, on essaie de présenter quelque chose de plus cohérent possible avec l'historicité. Donc, pour ça, on se base sur différentes sources. Globalement, il y a trois types de sources, ou quatre, oui. Va y avoir les sources textuelles. Donc écrite, sachant que les Vikings avaient une culture orale, donc on a peu de sources écrites à part celles des autres, donc des voisins avec qui ils querellaient, avec qui ils commerçaient, parce que c'était un peuple voyageur et commerçant, donc les textes sont à prendre avec des pincettes. Sinon, il y a les sources iconographiques, ça va être les images qu'on retrouve, par exemple la tapisserie de Bayeux est très connue et elle nous donne beaucoup d'indications sur la vie quotidienne et sur les artisanats. Enfin, vous avez les sources archéologiques, les tombes, les dépotoirs et les villages qu'on retrouve.
Et donc là, avec ce que vous avez cité, les laines, enfin en tout cas tout ce qui est base d'ortie, vous essayez ensuite de tisser avec tout ça?
Exactement, on va teindre et on va travailler la fibre, donc ça peut être du feutrage et du tissage. La teinture, en fait, on pense souvent que le Moyen-Âge, c'est... sombre, triste, morne. En fait, c'est ultra coloré. On a tout le panel, tout le cercle chromatique avec les teintures végétales.
Et justement, vous disiez, ils voyageaient beaucoup, donc il y avait des techniques qu'ils employaient qui étaient aussi faites en France. Comment ça se passait au niveau des techniques?
En fait, sur l'artisanat, que ce soit les teintures, que ce soit le travail de la laine, qu'on va carder, qu'on va filer, qu'on va tisser, c'est des choses qui sont très communes à plein de civilisations, qu'on va retrouver de chez les Romains à chez les Gaulois, jusqu'aux Vikings et nos arrière-grand-mères.
Et là, on voit même des plantes, c'est ça, pour carder, ils utilisaient aussi des plantes existantes dans la nature.
Ça fait partie de l'archéologie expérimentale. Certains archéologues ont fait l'hypothèse que les chardons qu'on retrouvait étaient utilisés pour carder. On a essayé, ça ne marche pas. Donc on pense que c'était plus utilisé pour gratter la laine. Et c'est des choses qui sont utilisées dans des filatures qui vont avoir une centaine d'années.
Et vous parlez d'archéologie expérimentale, mais c'est quoi exactement ?
Alors l'archéologie expérimentale, ça consiste à essayer de recréer l'artisanat, que ce soit la maçonnerie, que ce soit la laine, que ce soit le travail de l'os, avec les procédés de l'époque. Voilà, on va essayer d'utiliser les matériaux, les outils, on va essayer d'être le plus cohérent possible avec tout ce qui a été retrouvé en fouille.
Alors là, on est au musée Parc Archéos, donc à Douai. Vous faites souvent des stands comme ça, des présentations publiques?
Oui, effectivement, on fait souvent des collaborations avec des musées, ça c'est ce qu'on aime le plus, ça, parce que le public vient pour découvrir l'histoire. Après, on va être dans des choses plus où le public ne cherche pas forcément l'histoire, et ça va être des fêtes de village, des fêtes médiévales au sens plus large, voire des médiévales fantastiques.
Et vous, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de reconstituer justement des techniques vikings, ou de faire des recherches sur les vikings?
Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est pas tant la partie recherche, c'est la partie technicité, essayer d'approcher la matière sous un angle différent de celui de l'industrialisation d'aujourd'hui. Et l'époque viking est très intéressante parce qu'encore peu spécialisée, et donc on peut s'attaquer à plein d'artisanats en même temps.
D'autres corps de métier indispensables de l'époque étaient également représentés, tels que la forge. Yves Schmitt, forgeron spécialisé dans le domaine historique, nous explique la raison de sa présence dans le parc Archéos.
En fait, je vous montre comment on travaille le fer à l'époque des Vikings et Carolingiens. Donc pour ça, j'ai, on va dire, une forge qui est inspirée de ce qu'on a pu retrouver. Donc une paire de soufflets vikings, un foyer dans le prolongement. Et donc on va pouvoir chauffer le fer à la bonne température, et ensuite venir le travailler au marteau sur l'enclume qui est ici. Voilà. Donc après, c'est que des objets qui ont pu exister ou qui sont inspirés. C'est pas de la copie à l'identique, évidemment. Mais enfin, en tout cas, les méthodes restent les mêmes.
Avec, vous avez montré un clou, mais il y a quoi, par exemple, de l'époque que vous pouvez faire?
Techniquement, je peux tout faire. Mais après, le problème, c'est que ça prend du temps. Donc là, moi, en démonstration, effectivement, je fais des petits trucs. Donc effectivement, clou, pointe de flèche. Pourquoi? Parce que ça prend, on va dire, aux alentours de 5 minutes. Et ça permet que le public voit du début jusqu'à la fin. Et après, ça permet aussi de pouvoir expliquer, par exemple, d'où vient le fer, etc. Enfin bon, on peut après s'éparpiller un petit peu. Après, je pourrais faire des objets plus compliqués, mais les gens sont moins attentifs. Voilà, si ça prend une demi-heure, c'est plus compliqué de les garder, quoi.
D'habitude, en tant que forgeron, vous faites quoi comme objet?
Eh ben, je fais des reproductions d'objets, d'objets historiques, quoi. Donc, si on me demande, par exemple, de refaire des ferrures pour un coffre, eh ben, je peux les faire. Si on me demande une pointe de lance, pourquoi pas, je peux la faire. Une épée, un couteau, ou même des outils, un marteau, une hache, une pince, voilà. Tout ce qui est en fer.
Et là, on voit qu'il y a du matériel que vous avez pu faire reproduire de l'époque, et il faut aussi une technique particulière peut-être de l'époque pour faire là, le clou qu'on n'utilise plus forcément, je veux dire, aujourd'hui ou pas?
En fait, si, ça, on utilise toujours les mêmes techniques. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont découvert des techniques. L'âge du fer, c'est moins 800 avant Jésus-Christ. Hein, donc là, on est en 2018, donc ça fait 2800 ans qu'on travaille le fer. Donc les techniques, ils les ont découvertes il y a bien longtemps, et depuis, on n'a pas trouvé mieux. Enfin, quand je dis on n'a pas trouvé mieux, en tout cas, on n'a pas trouvé mieux manuellement. Après, avec des machines, des machins, on peut travailler différemment. Mais en tout cas, à la main, avec un marteau et une enclume, les techniques n'ont pas changé, non.
Vous disiez à l'époque que le fer c'était précieux, si c'était cher, on faisait pas n'importe quoi, il y avait des objets, en tout cas des choses très précises qu'on demandait de faire aux forgerons.
Alors c'est pas pour faire le malin, hein, mais Forgeon, il est un peu au centre de la société. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui fabrique quasiment tous les outils des autres corps de métier. Alors c'est pas vrai pour tout, hein. Par exemple un potier, il a pas spécialement besoin d'outils en fer. Mais par contre un menuisier qu'on a en face là, un tailleur de pierre, paysan, un guerrier, enfin tous ces gens-là utilisent des outils ou des armes qui sont fabriqués par le forgeron. Donc c'est un personnage important.
C'était assez cher finalement le coût du fer à l'époque.
Bah, en fait oui, on ne peut pas se contenter de faire une mine de fer, de sortir du minerai et hop on le forge, ça marche pas comme ça en fait. Ce qui fait qu'il est assez cher à l'époque, c'est que votre fer, votre minerai de fer se présente sous forme d'oxyde de fer. C'est-à-dire que c'est un gros tas de rouille en fait. Et l'opération qui permet de passer entre monoxyde de fer et du fer qu'on va pouvoir forger est compliquée et relativement longue. Bon après je peux la détailler, mais enfin ça risque d'être un petit peu long. Mais disons que juste à cause de ça, le fer eh ben, est cher. Voilà.
Et là, vous êtes intéressé à la période viking, vous êtes intéressé aussi à ça ou pas forcément en particulier ?
Bah, le viking, ouais, c'est une période qui m'intéresse, ouais. Bah, déjà parce que j'aime bien les costumes. Après, pas forcément le côté guerrier, pillage, etc. Mais j'aime bien, on va dire, l'esthétique de la période.
Avec des casques, on peut voir aussi, vous faites des casques ?
Je fais des casques. Après, le travail est un peu différent de la forge traditionnelle. On va se rapprocher plus du travail de la tôle, mais enfin, voilà, on utilise quand même une forge et un marteau de manière différente, mais bon, l'esprit reste le même.
Reportage.
Les élus présents sur les lieux étaient agréablement surpris de l'engouement engendré par ce week-end de festivités. Ils espèrent au-delà de cet événement que le parc et les installations futures porteront leurs fruits et dynamiseront les activités touristiques. Christian Poiret, président de la communauté d'agglomération, était présent sur les lieux.
Il y a peu d'agglomérations qui construisent un musée. Et le musée Archéos a été construit il y a 4 ans. Et c'est 25 000 personnes qui viennent par an dans ce musée. Nous avions la volonté de faire ce parc. Nous avons commencé par le Portus et les deux maisons d'époque qui ont été refaites également, comme vous avez pu le voir, mais également les passages d'eau tout autour, le pont-levis du Portus, les dracars qui arrivent là maintenant. Il y aura des manifestations permanentes sur le site avec des animations, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les écoles également et les centres aérés. Et on n'a pas fini, parce qu'après ce portus et tous les cheminements qui ont été réalisés, que vous pouvez voir ici, également le jardin là-bas qui a été réalisé, vous aurez là la motte féodale qui sera construite, dans les 2 ans qui viennent, maximum, mais j'espère commencer dès l'année prochaine, mais qui sera finie dans les 2 ans. Et ensuite, une abbaye qui sera reconstruite à ce niveau-là. Donc, un parc où on pourra venir se promener et prendre du plaisir, découvrir l'histoire. Et de plus, comme je l'ai annoncé lors des vœux de l'ACAD, et je l'ai redit tout à l'heure dans mon intervention, il y aura un planétarium qui viendra juste à côté du musée. Donc, planétarium, musée, parc, on pourra passer la journée ici, tranquillement, et prendre beaucoup de plaisir.
Alors, c'est un gros investissement, avec même des aides, pour pouvoir faire ce parc archéologique.
Oui, au niveau de ce parc Archéos, on va l'appeler parc Archéos, ce n'est pas un parc archéologique, c'est le parc Archéos.
Quoi la différence ?
Donc, l'archéologie, ça veut dire qu'il y aurait des fouilles sur place. Alors, là, on n'est pas sur les fouilles, on est sur l'animation de l'époque médiévale, l'époque des Vikings et autres. D'accord ? Voilà, c'est un peu la différence. Donc oui, il y a des participations financières de l'État. Sur les 3,7 millions que nous investissons là, au niveau de 360 000 euros, nous avons la région qui est à hauteur de 600 000 euros. Et nous avons surtout également le département du Nord, dans sa politique d'aménagement du territoire, qui est au niveau de 1 million d'euros sur l'investissement. Nous avons besoin des collectivités locales. Et aujourd'hui, on voit bien que ce soit la région, que ce soit l'État, que ce soit le département du Nord, il y a une politique d'aménagement du territoire et c'est une très bonne chose.
Et vous dites que c'est aussi développement économique, finalement, ce parc, ça va pouvoir développer d'autres activités ?
Quand je dis développement économique, je dis touristes. Vous voyez les centaines de personnes qui arrivent là, autour de la présentation. Des touristes sur le territoire qui vont faire des nuitées, qui vont aller au restaurant, qui vont acheter des choses sur le territoire, qui peuvent aller se promener à Douai également, faire des achats par exemple, après être venus à Archéos. Et voilà, ça fait du développement économique. Ça peut faire vivre également les cafés, ça fait vivre les restaurants.
Et aussi, du coup, des animations régulières durant l'année pour faire vivre ce lieu.
Oui, il y aura des animations régulières. Alors, animations classiques, en semaine. Et également une grosse animation les 21, 22 et 23 septembre avec une grande fête médiévale du même niveau que ce que nous avons et même encore supérieure par rapport à aujourd'hui où il y aura des milliers de personnes qui sont présentes.
Plongé dans cet univers de l'époque carolingienne, le maire de Douai, Frédéric Chéreau, quant à lui, semble ravi de l'impact que peut avoir un outil culturel de la sorte.
C'est bien sûr d'abord un objectif pédagogique, puisque c'est un complément du musée, faire connaître notre histoire archéologique, nos vestiges, expliquer tout ça, offrir un outil pédagogique pour les écoles, pour les enfants, mais c'est aussi un lieu touristique, un lieu d'animation, un lieu d'attractivité pour le territoire qui complète une offre déjà très riche qu'on a sur ce territoire entre les musées de Douai, le château de Bernicourt, les différentes festivités qu'on peut avoir, les outils sportifs et culturels qu'on a à travers toute la CAD.
Et l'objectif, c'est aussi de ramener plus de visiteurs encore parce que le parc Archéos, le musée Archéos a déjà pas mal de visiteurs. Là, c'est l'objectif d'avoir plus de monde.
Oui, l'idée, c'est que ce sont les animations qui vont faire venir du monde. Le musée, c'est le socle, c'est la base, mais autour de ça, ce parc va être l'occasion de journées médiévales, de fêtes à thème, etc., de présentations en extérieur. Aujourd'hui, nous avons déjà un village médiéval, quelques maisons. Demain, ce sera, je crois, une abbaye, une motte féodale. Tout ça va être, peu à peu, va s'étoffer. Et puis, dans quelques années, là, on n'est plus du tout dans le médiéval, mais ce sera un planétarium, ici, sur le site d'Archéos.
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est le fait d'étendre, ça ne s'arrête pas là, les travaux du parc.
Non, vraiment, ça va être un lieu, au fond, un lieu d'animation, un lieu touristique, un lieu repéré, qui sera une des locomotives de la communauté d'agglomération du Douaisis, du territoire du Douaisis, pour attirer des visiteurs venant de bien au-delà du seul Douaisis. Je pense que ce sera demain un lieu repéré à l'échelle régionale.
Et puis on voit justement pas mal d'animations, ce sont des associations, c'est ça, il y a pas mal de monde qui vient pour animer ce lieu.
Oui, alors ce sont des troupes de professionnels ou d'amateurs éclairés. Je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs que demain nous suscitions la création, le développement de troupes de reconstitueurs ou d'animateurs sur le territoire, comme nous avons pu le faire avec une troupe de théâtre qui intervient très souvent ici dans le Douaisis, et que voilà, nous puissions avoir une galaxie d'acteurs ici dans le Douaisis qui tournent autour d'Archéos et d'outils de ce type.
Alors il y a aussi le canal de la Scarpe qui passe par Douai, mais aussi justement ici par le parc archéologique Archéos. C'est l'occasion de l'utiliser peut-être plus ce canal.
Alors ce canal-ci, ce n'est pas un canal navigable, mais en revanche c'est un canal qui peut être le support de beaucoup d'activités touristiques, des chemins de promenade, de vélo, de randonnée au bord en canal. Si vous redescendez vers Douai par ici, vous arrivez au parc Jacques Vernier, où nous sommes en train d'installer d'ailleurs en ce moment une association d'aviron. Donc c'est tout un ensemble d'activités que vous trouvez à 1 ou 2 kilomètres au sud. Quand vous partez de l'autre côté, vous arrivez vers le parc Scarpesco. Et voilà, donc ce canal de la Scarpe, cette ancienne Scarpe, peut devenir une colonne vertébrale touristique à travers tout le territoire.
Alors ça me manquait peut-être dans le Douaisis, parce qu'on voit la métropole lilloise, il y a le parc archéologique à Villeneuve-d'Ascq, il y a eu d'autres territoires qui ont leur parc. Ici dans le Douaisis, ça manquait une offre comme ça aussi pour les habitants.
Je pense que ça manquait, je pense que ça participe au renouveau, au changement d'image du bassin minier. Ici au fond à Douai, nous sommes au cœur du bassin minier, nous sommes au cœur d'un bassin humain d'un million d'habitants. Offrir une telle diversité culturelle, des atouts de ce genre, je pense que c'est très positif pour attirer des visiteurs, pour attirer des touristes, pour aussi ancrer des habitants, des familles, des chefs d'entreprise, pourquoi pas, qui vont se dire, ben voilà, dans ce territoire, il fait bon vivre, dans ce territoire, il y a une vraie qualité de vie, une vraie qualité d'activité touristique, d'activité culturelle, d'activité sportive. Et ben, c'est très positif pour notre territoire.
Un parc et un musée en constante évolution pour le plus grand plaisir des curieux de la région. Des nouveaux projets comme une abbaye et le planétarium viendront se greffer avec comme objectif de renforcer le potentiel culturel du territoire. Un reportage réalisé par Caroline Delattre. Interview Jérôme Bailly de Radio Scarpe 107.